bien, nous commençons notre intervention. Alors, elle porte sur Job et le combat du sens. Le père Dominique Joly, je crois qu'on vous l'a dit, hein, ne peut pas être. Il a dû partir pour un deuil dans sa famille,
oui,
en Martinique. Alors voilà, je le remplace. Il avait préparé un bon travail.
Voilà. Il faut bien, faut tenir le micro ou alors je vous le mets.
Voilà. Alors d'abord, le livre de Job est important, on en parle beaucoup. Beaucoup de livres ont été écrits dessus. Hein, parce que le livre de Job nous met au cœur de la condition humaine. La condition humaine où nous sommes justement affrontés à la souffrance, au mal. Mais surtout, le livre de Job touche la souffrance de l'innocent. C'est l'homme innocent qui vit une véritable injustice dans la souffrance qu'il vit. Et depuis toujours, les hommes se sont interrogés sur cette condition qui leur est faite, justement, de l'innocent persécuté, de l'innocent qui souffre, et puis en même temps, bien sûr, la relation avec Dieu. Et là, nous sommes entièrement dans la tradition de la Bible. Et nous avons justement le livre de Job qui essaye de répondre, qui se situe non pas dans la discussion intellectuelle, mais dans la condition réelle de l'homme qui vit dans sa propre chair, dans son être, cette souffrance de l'âme innocent. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le livre de Job est au confluent de deux réflexions. C'est d'abord la réflexion de tant et de tant de justes désespérés par la souffrance, une souffrance qui les accable, et de nombreuses sources littéraires qui, en leur temps, justement, essaye de voir ces liens entre la souffrance de l'innocent et la divinité. Alors, le livre de Job rentre aussi dans la tradition sumérienne, babylonienne. On a aussi le juste souffrant d'Ougarit. Donc, en Égypte aussi, hein, on pense aux paysans qui souffre en Égypte, et puis il y a Antigone de Sophocle, le Promothée enchaîné d'Échille, et il y a, jusqu'à la période actuelle, dans la moderne livre de la peste de Camus. C'est toujours un problème qui est fondamental dans l'histoire de l'humanité. Et c'est aussi la recherche de croyants, de tous ceux qui s'obstinent à croire, trouver auprès de Dieu ce qu'ils croient, et que dans toute la tradition d'Israël, comme dans la tradition judéo-chrétienne, on cherche la réponse à l'angoissante et permanente énigme du mal, de la justice, de la récompense et du châtiment. Le livre de Job est l'un des chefs-d'œuvre où s'exprime justement ce problème fondamental de l'humanité souffrante. Dans ce livre, je vais parler surtout du dialogue, parce qu'il y a un épilogue, hein, si vous l'avez lu un peu, hein, on parle de Satan, etc. Puis il y a ensuite un épilogue, où tout se termine bien, où Job retrouve ses richesses et retrouve sa place dans la vie. Mais ça, exégétiquement, c'est discuté, parce que le prologue et l'épilogue semblent venir d'autres sources. Hein, et je resterai davantage dans le dialogue, hein, c'est-à-dire qui va se faire entre les amis de Job, les trois amis, avec et avec Dieu, hein, avec Elihu et avec Dieu. C'est là, il me semble, que le nom, le cœur de la question peut se poser. Voilà. Alors, ce livre de Job peut s'articuler en quatre phases. Le cadre narratif, versets 1 et 42, qui regroupe le prologue et l'épilogue, mais sur lequel je vais passer à côté. Et c'est surtout les dialogues avec les trois visiteurs, et puis qui se terminent dans le dialogue avec Dieu, après le discours d'un autre personnage qui s'appelle Elihu, et qui ont été ajoutés certainement avec 450, dans l'année 450 avant le Christ. Alors c'est une question universelle, ça, hein ? C'est la condition de l'homme révolté contre la souffrance inexplicable. Et cela révèle non pas un signe d'approfondissement de la foi, d'affadissement de la foi, ce n'est pas un péché, comme on le pense trop souvent. Ce qui peut devenir péché, c'est justement ce qu'on fait de la révolte. Or, ce livre de Job est justement la révolte. Il est révolté, Job. Il est révolté contre Dieu, même. Or, la révolte, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi. On ne se révolte pas contre un destin impersonnel. On ne se révolte pas contre un arbitraire sur lequel on ne peut rien faire. La révolte, c'est contre quelqu'un qu'on connaît, contre quelqu'un qui fait partie de notre vie, auquel on croit, et il y a des choses qu'on ne comprend pas. Voilà donc la première chose, c'est cette révolte de Job que nous allons maintenant suivre un peu à travers notre réflexion. Parce que la révolte ne peut se comprendre que si l'on croit en un Dieu personnel. Car se révolter contre un destin, à quoi bon ? Se révolter contre un arbitraire, à quoi bon ? Se révolter contre un absolu qui ne changera jamais, à quoi bon ? Dans la mesure où Dieu est destin, dans la mesure où nous sommes dans le déisme, et non pas dans le Dieu de l'Alliance, le Dieu avec lequel nous sommes en relation profondément personnelle, à ce moment-là, nous ne comprendrons pas, parce que s'il y a un destin, on ne peut pas se révolter. La révolte ne mène à rien devant un Dieu qui a déjà fait son prévu un destin sans la liberté de l'homme. Autant, si vous voulez, se révolter contre un mur qui nous bouche l'horizon mais auquel on ne peut rien pour le détruire. À ce moment-là, la révolte ne rime à rien. Tandis que, justement, Dieu est présence. Et la révolte prend un sens dans le dialogue avec cette présence, avec quelqu'un que l'on connaît, avec lequel on ne comprend pas, mais avec lequel on veut savoir. Donc, il y a une réponse dans ce livre à l'interrogation de la révolte de Job. Car Job, vous connaissez l'histoire, hein, je ne vais pas la rappeler, que ce qu'il vit, c'est l'homme effondré jusqu'au bout. Hein. C'est l'homme qui ne croit plus en la vie, il n'y a qu'à lire le chapitre 3, hein, qui maudit son existence. C'est l'homme qui avait des biens qui abandonnait de tous. C'est l'homme qui est là couché sur la cendre, et à l'époque, les cendres chaudes servaient pour les pauvres, parce qu'elles chauffaient la nuit, elles maintenaient la chaleur et on se couchait sur la cendre. C'est donc l'homme qui est absolument effondré, sans aucune espérance, et ça il ne comprend pas. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on pensait que le juste serait récompensé par Dieu, et nous le verrons tout à l'heure. Ces trois amis qui vont parler avec Job vont lui rappeler toutes les sources de la sagesse dans lesquelles, bien c'est clair, hein, la théorie est claire, si tu suis Dieu, si tu es fidèle à Dieu, bien tu seras heureux sur cette terre. Hein. Il ne t'arrivera pas de malheur. L'homme qui est fidèle à Dieu trouvera le véritable bonheur de la vie. Et voilà donc la question qui est au cœur de ça. Fidélité à Dieu, bonheur de la vie, mais alors, comment se fait-il que l'innocent qui est fidèle à Dieu tombe dans un si grand malheur? Et c'est justement là le scandale. Car le livre de Job, c'est pas simplement le problème du mal. Le livre de Job, c'est bien la souffrance de l'innocent. C'est bien profondément l'injustice que ressent un innocent, et une injustice qui se rapporte à Dieu, parce qu'au fond, comment rétribue-t-il les actions des uns et des autres, hein? Comment celui qui est riche et bien portant, même s'il n'est pas fidèle à Dieu, voit sa richesse accroître, et celui qui est innocent, qui a été fidèle à Dieu, tombe dans une très grande souffrance. Voilà. C'est pour cela que d'abord, nous voyons dans ce dialogue, Job qui est là, sur son tas de débris, ses amis viennent le voir. Et il reste en silence pendant 7 jours. Puis à leur adresse, Job se met à crier. Je dirais même, il se met à gueuler. C'est le terme qu'il faut dire. Hein, parce que si vous prenez les textes, en effet, il crie très fort. Hein, il n'admet pas ce qu'il est en train de vivre. Hein. Ils disent ça, ses souffrances physiques et surtout sa souffrance morale. Hein. Puis il s'en prend à Dieu. Mais il s'en prend à Dieu sans mâcher ses mots. Que t'ai-je fait? Si j'ai péché, pourrais-tu me dire l'importance que cela? Tu me considères donc et tu me cernes comme un ennemi. Car enfin, tout est dans ta main. Pourquoi ta main m'écrase, hein, au lieu de me caresser? Les amis écoutent, les trois amis, et lui disent « Job, tu blasphèmes. » Et même sa femme lui a dit hein, « Maudit Dieu, hein, tu n'es plus rien. » Et Job refuse de maudire Dieu. Mais les amis lui disent « Si tu souffres comme cela, c'est que tu es coupable quelque part. Parce que la fidélité à Dieu aboutit au bonheur de la vie. C'est vrai que la fidélité à Dieu, la fidélité à la création, la fidélité, j'allais dire, à la loi naturelle qui fait l'homme comme homme, devrait conduire le bonheur pour l'homme. Mais ce n'est pas ce qui arrive toujours. Hein. Et nous voyons toujours au cœur de l'histoire des protestations. Même dans la Bible, nous voyons, en dehors du livre de Job. Car il y a d'innombrables exceptions, des justes et des innocents qui souffrent et qui ont été tués, massacrés injustement. Alors les amis de Job se réclament de la ligne de la sagesse. Il faut dire que le livre de Job se situe dans cet ensemble de livres aussi qu'on appelle les sapientiaux, c'est-à-dire qu'on est à un niveau de réflexion sur l'existence humaine. C'est une réflexion existentialiste. Voilà. C'est-à-dire de ce qui est existentiel pour l'homme, dans la profondeur de l'expérience de l'homme. Alors, les amis de Job vont lui rappeler cela. Si tu souffres comme cela, c'est que tu es coupable. C'est que Dieu te donne le châtiment que tu mérites. Alors, cher ami, reconnais bien que tu es coupable. Voilà ce que lui disent ses amis. Et Job dit bien, je sais que je ne suis pas un saint. Je suis un pécheur aussi. Mais je ne vois pas la relation qu'il y a entre mon péché et ce qui arrive maintenant à moi. Cela, je ne le comprends pas. Il n'y a pas de rapport entre les deux. C'est comme si on condamnait à mort quelqu'un qui a commis des impolitesses. Oui, j'ai bien commis des péchés, mais j'ai quand même pas commis des péchés pour mériter des châtiments extrêmes jusque-là. Alors l'autre lui dit, mais tu blasphèmes, on ne parle pas comme cela à Dieu. Et Job dit, mais on voit bien que vous n'êtes pas en ma place. Je voudrais bien vous y voir, vous, de voir dans la situation où je suis. Du matin au soir, je suis dans l'effroi, je suis dans la peur, je sens que la vie s'en va, je n'ai plus sens de la vie. Et Job le dit, regardez le sort des méchants, au chapitre 2. Bien eux, ils sont pas fidèles à Dieu. Et regardez ces méchants-là. Bien, ces méchants, leurs affaires marchent bien. Ils sont à l'abri de l'effroi. Ils n'ont pas de malheur. Et ils voient leur richesse s'agrandir. Ils ont leur progéniture aussi qui va en prospérant, alors Dieu n'a d'égard pour personne. Alors, où est maintenant la véritable justice? Parce qu'au fond, tout se vaut. Puisque le méchant prospère et a des biens, et il se sent riche, et puis celui qui est juste, qui essaye d'être fidèle à Dieu, tombe dans cette souffrance qui est inadmissible et inexplicable. Alors là, nous sommes en face de ces réalités qui valent les théories ressassées par ses amis. Et là, il y a cet implacable réquisitoire contre la doctrine traditionnelle qui vaut à Job une violente algarade aussi d'Éliphaz, qui jusque-là s'était justement tu et montré bienveillant à son égard. Mais alors comment se fait-il que Dieu, dont Job et ses amis admettent l'absolue maîtrise sur la nature, aussi bien sur les destins des sociétés et des individus, comment se fait-il que ce Dieu soit indifférent au bien et au mal, qu'il laisse commettre les pires injustices et les pires crimes et les situations les plus odieuses? Là, nous voyons que c'est toute la condition humaine qui s'exprime là. Il y a une réponse à Job, mais quel en est le sens? Et à la fin du livre, bien nous voyons Dieu qui va entrer en dialogue avec l'homme. Parce que le cri de Job veut dire « Dieu est absent. Dieu est absent de ma vie. Dieu est pourtant celui qui fait la création, mais pourtant alors, s'il est absent, ça veut dire que la vie manque. Car c'est lui la vie. » Et Job savait que Dieu est le Dieu des vivants. Alors soyons bien clairs. Hein. L'absence de Dieu, pour Job, l'absence de Dieu dans la vie, l'absence de Dieu dans l'histoire, ou cette absence qu'il voit comme absence, que lui interprète comme absence, hein, c'est là ce qui est scandaleux pour Job. Comment ? Il est absent aux justes, et il est présent aux riches, aux exploiteurs, qui propagent, fiers d'eux-mêmes, qui répondent de haut aux vulgaires petits peuples. Dieu serait-il ainsi présent aux malfaiteurs et absent aux innocents ? Quel sens alors dans la réponse de Dieu dans ses convictions ? Remarquez bien que Dieu, Job, ne dit pas que Dieu n'existe pas. Hein. Job n'est pas athée. Et cela ne lui viendrait pas même à l'esprit. Et il ne crierait pas fort contre Dieu s'il ne croyait pas qu'il était là. Car que sert de blasphémer Dieu si on ne croit pas en lui ? Ça n'a pas de sens. Alors, il se demande à qui s'en prendre. Et la réponse de Dieu, c'est justement l'expérience qui la trouve. Car le fond de ce dialogue, il y a ses amis qui partent des livres, des principes de la sagesse, hein, qui partent de ce que toute une tradition nous dit sur Dieu, mais ce dont ils font avec Job, ce sont des discours sur Dieu. Ils ne parlent pas réellement de Dieu, ils parlent de discours sur Dieu. De discours que la tradition connaît, de discours d'école, j'allais dire, voyez, que l'on peut apporter, mais qui ne vont pas rejoindre l'homme dans la profondeur de son existence, dans la profondeur de son expérience humaine. Et dans ce monde où l'homme souffre d'une manière inexprimable, qu'est-ce que Dieu répond ? Bien, il va y avoir ce beau poème de Dieu, hein, que nous trouvons dans le livre de Job, très long d'ailleurs, hein, qui nous dit oui, et il le pose, et ça se fait dans un dialogue. Dans un dialogue qui va rejoindre l'homme dans la réalité de sa vie. Ce qui se passe entre Dieu et Job, c'est autre chose que ce qui se passe entre Job et ses amis. Ses amis, c'est des beaux phraseurs qui donnent des belles idées sur Dieu. Dieu va rejoindre Job en le faisant réfléchir. Mais d'abord, il va lui dire, non, au cœur de ta souffrance, je suis là. Ta souffrance me touche. Au cœur de ta souffrance, je suis avec toi. Tu n'es pas abandonné. Je comprends que tu crois être abandonné. Pour cela, d'ailleurs, que Dieu ne soutient pas les sages qui viennent faire des discours sur Dieu. Parce que le livre de Job, c'est vraiment la rencontre personnelle de Dieu avec l'homme dans les profondeurs de sa condition d'homme. Alors je comprends, en effet, que tu crois être abandonné. Mais n'en conclus pas que ta souffrance est absente de Dieu et que la réussite et la justice sont présentes de Dieu. Tu ne vas pas jusqu'au bout de ta révolte. Ta révolte est légitime tant que tu ne comprends pas le véritable sens de la création. Alors, que vient dire Dieu ? Il va le faire réfléchir. La création. Ben, cette création, elle n'est pas terminée. Il faut que tu vois les choses dans toute sa dimension. Si vous voulez, ça vient de dire un peu que cette création qui est en devenir, et il faut en voir où elle va et quels sont les projets de cette création. C'est comme si dans un film, ben pour bien comprendre le film, il faut aller jusqu'au bout du film. Si on arrête un moment une scène et qu'on l'isole du film, sans tenir compte du début et où va le film, on ne comprend pas. Voilà, tu vois ta vie maintenant, ici. Hein? Mais Dieu l'ouvre à l'ensemble de son projet et à l'ensemble de l'histoire de l'humanité et à l'ensemble de la création. Et c'est cela qui rend intelligible. Non pas que tu vas comprendre d'une manière rationnelle, mais que tu puisses entrer dans ce projet qui est le mien et qui est aussi le tien. Et on ne peut pas, comme dans le film, immobiliser la création pour exprimer une souffrance. Il faut la situer à partir d'un nouvel ensemble. Alors Dieu, dans cet échange, c'est un échange de confiance et d'espérance qui va l'être. Dieu dit d'abord à Job, ben non, la création est en devenir. C'est ma création. Et cette création, tu es aussi partie prenante. J'ai un projet dans cette création. Alors, fais-moi crédit. C'est toute la question qui est donnée. Faire crédit. Faire crédit dans ce projet de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on va expliquer tout. Mais c'est un acte de confiance. Si bien que Job aura cette belle parole, hein, le Seigneur me l'a donné, le Seigneur me l'a enlevé, que le nom du Seigneur soit béni. Et quand et il dit cette parole, justement, quand sa femme lui dit « Maudit Dieu et crève !» Et il lui dit « Voilà, cette parole, qu'il est certain maintenant que le Seigneur est avec lui dans une création qui n'est pas achevée. » Et c'est dans cette perspective que le Christ va justement s'insérer. Si nous prenons l'Évangile, et bien c'est déjà dans les profondeurs de la Bible, hein, si on regarde toute l'histoire d'Israël, nous voyons que Dieu vit cette histoire avec Israël, puisque c'est l'alliance. Et si ce Dieu n'est pas alliance, on n'y comprend rien. Le déisme, c'est le Dieu qui n'a pas fait alliance. C'est le Dieu qui mène le monde comme un destin. C'est le Dieu qui est simplement réponse à nos questions sur les origines du monde. C'est le Dieu grand architecte. Avec ce Dieu-là, il n'y a pas d'échange possible. Parce que c'est un Dieu qu'on étudie comme un objet, et comme un objet de connaissance. Et dès que quelqu'un devient un objet de connaissance, on le méprise, il n'y a pas de relation. on le regarde comme extérieur à soi, on le regarde comme objet. Mais le Dieu de Job, c'est le Dieu de l'Alliance, c'est le Dieu d'Israël, qui pour nous chrétiens trouve son plein accomplissement en Jésus-Christ. Et le Dieu d'Israël, n'est-ce pas celui qui a fait alliance, qui vit avec Israël comme l'époux avec l'épouse, pour lequel déjà nous voyons dans toute l'histoire d'Israël que les souffrances d'Israël sont les souffrances de Dieu, que les joies d'Israël sont les joies de Dieu, que Dieu se réjouit avec eux pour tout quand les moissons marchent bien, et qu'il souffre aussi avec son peuple quand il y a une sécheresse et que les cultures donnent peu de fruits. C'est cela le Dieu que nous révèle maintenant dans cette histoire de Job, mais plus précisément dans la question du juste persécuté. Alors, c'est que Job, tu dis, Dieu lui dit, tu penses que je ne suis pas avec toi dans ta souffrance, et pourtant, je suis avec toi. Et si bien que dans le Christ, on pourra même dire, ta souffrance est ma souffrance. Que Dieu n'est pas simplement présent à la souffrance, que la souffrance de l'homme et la souffrance de Dieu ne font qu'un, parce que nous sommes dans le mystère de l'Alliance. Et mystère, ça ne veut pas dire incompréhensible, il faut faire attention. On parle pas, Paul ne parle jamais du mystère incompréhensible, il dit du mystère insondable, c'est pas la même chose. Quand on voit jamais le bout des choses et qu'ils sont toujours une recherche. Le mystère, c'est au contraire pour nous rendre intelligents. C'est pour nous faire entrer dans le projet de Dieu, que nous sommes appelés à découvrir constamment. Et voilà ce que Dieu fait avec Job. Rentre, à partir de ta condition réelle, de ta propre histoire, de la réalité de la vie, car moi je suis toujours au cœur de la réalité de la vie. D'ailleurs, si on reprend la Bible, Dieu se révèle à Israël dans l'histoire, dans la réalité de la vie. Et que la première expérience de Dieu en Israël, c'est la libération, c'est l'expérience libératrice. Une expérience libératrice de l'esclavage. Et quand on dit Dieu a libéré son peuple, c'est vrai, mais ça serait plus juste de dire encore, Dieu a pu faire que son peuple puisse se libérer. Parce que Dieu libère, mais nous associe toujours à lui, à cette libération. C'est-à-dire que à ce moment-là, tu vas entrer dans une création que tu ne comprends pas encore, mais auquel je te révèle, et dans lequel tu deviens réellement un coopérateur avec moi dans cette création. Et c'est dans cette perspective que la foi est appelée à s'insérer. Ce Dieu, qui est au cœur de la souffrance, mais déjà dans la Bible, cette souffrance n'est jamais une résignation. La souffrance de l'autre est un appel de Dieu. Souvenez-vous, dans le chapitre 58 d'Isaïe, quand Israël jeûne parce qu'il y a les Assyriens à la porte et qu'on a peur d'être envahi, alors on jeûne et on supplie Dieu. Et Dieu leur dit bien, à quoi sert tes jeûnes? Le jeûne que j'aime, c'est de lutter contre la justice, je cite de mémoire, hein, voilà. Hein. C'est de donner à manger à celui qui a faim, c'est de vêtir celui qui n'a pas de vêtements, c'est de délivrer les chaînes injustes, c'est de délivrer de la servitude des hommes, voilà le jeûne que j'aime. Alors, la souffrance des hommes, c'est ma souffrance auquel je te rends participant. C'est pour cela que nous sommes créateurs avec Dieu, et je pense que le discours de Dieu est magnifique, parce qu'il fait rentrer Job dans tout cet appel de Dieu, dans cette vision créatrice. Je pense que, je termine par là, hein. Là nous sommes en face que les soubresauts de l'histoire mondiale sont devenus d'une tragique actualité à la figure de Job. Et vous connaissez comme moi autant que ces tragédies individuelles ou collectives ont donné lieu à beaucoup de réflexions. Je pense à René Morax, Job le vigneron, à Samuel Beckett, Tous ceux qui tombent, à Eugène Ionesco, Je me sens Job. Je pense aussi à Antonio Negri, Job, la force de l'esclave. Et je pense aussi à Elie Wiesel, hein, qui ressentait Job sur sa route dans sa célébration biblique. Et je pense aussi à ce que écrivait Jean Desmoliez, le rêve de Job. Et il disait que faute d'avoir trouvé une réponse à son angoisse auprès de l'autre avec un grand A, en appel aux autres, ses frères, de misère. Alors à ce moment-là, Job se fait collectif en solidarité avec les opprimés. Et lui refuse ce qu'il appelle la théologie de la résignation, qui est le contraire justement de la théologie de la libération. Alors, là, c'est en effet que nous puissions retrouver tout cela, car Job, en effet, n'est pas la résignation. Sa révolte est le contraire de la résignation. Il vit dans une situation de profonde injustice qu'il ressent et dont il veut en sortir. Et qu'il ne peut en sortir, non pas par des discours de sagesse humaine, hein, qui ne peuvent rien apporter à la situation de l'homme, mais dans sa relation profonde avec Dieu, dans sa relation du mystère de l'alliance qu'il vit avec Dieu, alors à ce moment-là, cela lui ouvre des perspectives. Le livre de Job devient alors cet appel de Dieu à collaborer avec lui, plus que collaborer, à coopérer, je dirais, hein, à la création. C'est-à-dire que toutes les catastrophes qui se passent, on en parlait l'autre jour aux amitiés judéo-chrétiennes, ce qui se passe au Japon et ailleurs, toutes ces catastrophes sont des appels à la responsabilité, et à la responsabilité de l'homme. Notre tendance serait de dire, que fait Dieu? Pourquoi n'intervient-il pas? Pourquoi permet-il cela? Et surtout, la nature, hein, l'homme n'y peut rien. Contre le tsunami, qu'est-ce qu'on peut faire? Si, on peut s'engager dans des recherches. Et cela va poser tout le problème d'un budget mondial. Tout cela va poser toute la recherche que l'homme doit faire. C'est-à-dire que tout est responsabilité de l'homme. Bien sûr, il faut les secours pour aider les gens, c'est nécessaire, hein, mais il ne faudrait pas s'arrêter là. Ça veut dire que toute catastrophe implique l'homme, et dans une période de mondialisation, invite l'homme à prendre ses responsabilités collectivement et mondialement. Où est le budget de la recherche pour que l'homme, dans sa vocation, ait justement d'achever la création? Mais qu'en achevant la création, ce soit l'homme qui s'achève lui-même. C'est ça qui est important. Car l'homme est appelé à s'achever lui-même en achevant la création. Il devient homme en achevant la création, mais en l'achèvement de cette création, c'est de s'achever lui-même. Hein, puisque la création, pour Dieu, c'est l'homme. Le sommet de la création, c'est l'homme. Voilà. Voilà donc ce livre de Job. Et que le combat de Job, c'est le combat qui s'inscrit dans sa propre chair, du sentiment profond de l'injustice qu'il subit lui-même. Et maintenant, c'est une ouverture à cette injustice qui est au cœur de toute la vie et contre laquelle nous sommes appelés à lutter constamment. Mais Job est le reflet de toute la révélation biblique. C'est l'approfondissement de ce Dieu de l'Alliance qui est engagé avec l'homme dans l'histoire, qui donne sens à l'histoire, repensons au film, d'une histoire qu'il faut toujours la relire dans un projet de Dieu. Et un projet que Dieu a, non pas sur nous, mais avec nous. Il faut toujours se dire cela. Hein. C'est toujours un projet avec nous. Si bien que nous trouvons cela dans la réflexion chrétienne et juive, et là je pense que pour nous chrétiens, écrivait Paul VI pour l'évangélisation en notre temps, il disait « Le combat pour la justice est constitutif de l'évangile lui-même. Il n'est pas un surplus de l'évangile, il est au cœur de l'évangile lui-même. » Ça, c'est le combat de Job contre sa propre injustice qui nous ouvre aux milliers de Job hein, pour lesquels nous sommes appelés à travailler à cette justice à laquelle Dieu nous appelle.
Merci Père Marcellini et merci d'avoir préparé en si peu de temps une si belle étude biblique. Un temps de questions. Qui veut poser des questions? Marie.
Oui, je suis réjouie par votre interprétation, c'est celle que j'ai toujours cherchée dans Job, mais je bute toujours sur la fin de Job. Je ne parle pas de l'épilogue, hein, effectivement, qui... bon. On n'a pas besoin de ce happy end à la fin pour ajouter du sens au récit. Je cherche cette interprétation de l'invitation de Dieu à coopérer à la création et je ne l'ai pas trouvé dans Job. Alors, quels sont les versets dont vous parlez? J'en suis restée à la démonstration omnipotente de Dieu qui dit « Regarde, ça c'est moi qui l'ai fait, regarde, ça c'est moi qui l'ai fait, regarde, ça c'est moi qui l'ai fait » et Job reste sans voix.
Vous avez raison, il n'y a pas la peine comme le Dieu de l'Exode hein, qui dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple hein, » et dit à Moïse « Vas-y hein. » et Moïse ne veut pas y aller et Dieu se met en colère, il faut y aller hein, parce que c'est Dieu qui ressent la souffrance du peuple. Et je pense que là, dans le dialogue avec Dieu, c'est Dieu qui, si vous voulez, dans lequel l'homme se trouve dans l'impossibilité, par sa seule sagesse humaine, de comprendre le projet de Dieu. Parce que, faut pas oublier que nous sommes en période où il y a une grande importance des livres sapientiaux. Avec la sagesse, ces livres sapientiaux se sont écrits justement sous l'influence de toutes les sagesses, hein, surtout après l'Exode, la diaspora, etc. Et donc, là, on touche du doigt, si vous voulez, dans ce livre, que la sagesse humaine ne peut pas, à elle seule, trouver la réponse hein, à la situation de l'homme. Hein. Il faut la lumière de Dieu. Or, ce Dieu qui est présenté à Job, c'est justement le contraire du Dieu du destin. C'est le Dieu qui est au cœur de la création, que toi, d'ailleurs il lui dit, où étais-tu toi, quand j'ai fait les étoiles, etc., hein, les constellations, etc. C'est-à-dire, c'est une invitation à entrer voilà, dans la compréhension de l'action de Dieu. Alors il est vrai que ce n'est pas aussi explicite que ce que j'ai dit moi-même, hein, c'est vrai. Mais il me semble que c'est le sous-entendu pour moi, ce livre de Job, qu'à travers Dieu qui se présente hein, dans cette création, c'est un appel à une confiance totale en lui, et c'est pour ça que je disais, fais-moi crédit. Hein. On fait crédit à Dieu, et on est bien obligé tous, hein, c'est la foi ça. Hein. La foi d'Abraham, c'est faire crédit à Dieu. Et dans notre histoire, il y a un tas de choses que nous ne comprenons pas. mais nous sommes en recherche parce que nous faisons crédit à Dieu. Mais ce crédit à Dieu n'est pas une passivité. Je crois que là, il faut qu'on soit clair aussi, hein, parce qu'il y a parfois une certaine forme de parler de la confiance en Dieu qui est une démission de l'homme. Hein. Or, la confiance en Dieu n'est jamais une démission de l'homme. Hein. Donc, ça veut dire « fais-moi crédit », mais ça veut dire que toi, tu vas entrer hein, aussi dans, ce coup, dans tout ce que tu fais, de croire que ce monde a un sens, qu'il y a un projet, et que ce projet, je le vis avec toi, au cœur même de ta souffrance. Je pense.
Oui. Patrick.
Oui, je voudrais revenir sur un aspect qu'on a évoqué tout à l'heure, sur le passage entre la révolte et la résignation, parce qu'en fait la révolte est souvent le témoin de l'espoir de l'écoute de Dieu. Et je prends un exemple un peu pratique, c'est celui du nourrisson qui pleure et qui ne veut pas dormir, et parce qu'il espère en faire toujours la consolation de sa mère. Et en fait, quand la maman le cadre, eh bien l'enfant finit par s'endormir résigné. Et pour donner un autre exemple, c'est moi je suis d'origine juive, et on lit le Kaddish au moment de la mort, et qui est un petit peu le témoin du maintien de la confiance, de l'amour qu'on a pour Dieu, malgré la mort d'un des siens. Et est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est une situation de résignation, un petit peu comme l'enfant qui se résigne à dormir parce qu'il est cadré?
Derrière le mot résignation, est-ce qu'on peut mettre le mot confiance? C'est ça, hein? Voilà. Je préférerais, moi, le mot conscience au mot résignation. Parce que le mot résignation, ça veut dire je ne peux pas faire, je le fais, mais je voudrais faire, j'aurais pu faire autrement, mais je me résigne. Hein? Tandis que le mot confiance, c'est cette confiance qui fait que je sais que Dieu travaille. Hein? D'ailleurs, c'est vrai que. Hein? À peine couché, aussitôt je m'endors, il y a le psaume qui dit hein, « Seigneur, en toi seul, je mets ma sûreté hein ». C'est vrai. Mais c'est vrai aussi que dans l'Évangile, on dit « Le royaume de Dieu est semblable à une semence, que tu dormes ou que tu travailles, la semence grandit voilà. ». Alors, en effet, il y a là le fait de l'action de Dieu qui nous précède, qui nous dépasse et à laquelle il nous appelle. Voilà. Alors moi je ne mets pas des contradictions avec ça, hein, parce que au fond c'est le mot paix. Et nous savons shalom, hein, la paix. Or la paix, qu'est-ce que ça veut dire dans la Bible? La paix, c'est pas simplement la tranquillité qu'on va vivre entre soi, je ne crois pas me tromper. La paix, ça veut dire que l'homme réussisse, voilà, qu'il y ait la réussite de l'homme. Hein. Paix sur Jérusalem, qui est la réussite de la cité. Donc, cette confiance est toujours la confiance dans un Dieu qui veut notre réussite, qui veut notre accomplissement. Alors, je pense que l'accomplissement nous dépasse et en même temps, nous sommes participants. Parce qu'à ce moment-là, si nous ne sommes pas participants, Dieu serait terriblement paternaliste. Moi, je pense, voilà.
Ce qu'il me semble dans l'histoire de Job, c'est effectivement une ouverture à la connaissance. Alors, cette connaissance qui passe souvent par le drame, par la souffrance, parce que c'est purement humain. Nous rêvons tous de rester enfants et d'être ce nourrisson, effectivement, qui voudrait rester dans les bras de sa maman jusqu'à la fin de la vie. Et là, il nous est donné que c'est de voir que c'est impossible. C'est exactement le travail pour que l'homme grandisse. Il y a comme cette obligation, et je crois que dans Job, justement, ça nous est bien montré. Bien sûr, ça paraît terrifiant. Et c'est souvent terrifiant, parce que ça arrive vraiment. Ce n'est pas une fiction. C'est une fiction qui, là, devient réalité. Il y a vraiment des personnes qui sont Job. Et je ne suis même pas sûre qu'à la fin, elles retrouvent. Non, parce que souvent, elles ont quitté ce monde. Alors oui, elles ont peut-être retrouvé ailleurs, mais ça, on ne sait pas ici. Donc, grandir, est-ce qu'on est obligé de passer par là? Je le crois. Et nous, dans le travail thérapeutique, on le voit. C'est la souffrance qui amène à se connaître, à grandir, et peut-être justement aller jusqu'à, en se connaissant, en connaissant les autres aussi, amener à parachever, comme nous y disions à notre dernière conférence, cette création, en tout cas la continuer. Mais si on ne grandit pas, on ne peut pas. Alors est-ce que là, un prix à payer tel que... Moi, je ne suis pas d'accord, personne n'est d'accord, mais malheureusement, on n'a pas le choix. J'avais eu une lecture absolument prodigieuse, qui est un véritable Job. C'est un homme à Varsovie, au moment du ghetto, qui raconte, mais qui continue à garder la foi. Il ne va pas vivre, cet homme, on a retrouvé ses écrits. Il ne vivra pas. Mais jusqu'au bout, il aura parlé de la foi qui est là au niveau de l'Emouna. C'est vraiment la foi en Dieu, c'est la foi d'Abraham. Alors, est-ce qu'il aura grandi cet homme? Je n'en sais rien. Mais nous qui lirons cela, et puis surtout la suite, c'est le mystère, c'est vraiment. Mais je pense que c'est d'autres objectifs de grandir qui se présentent.
J'avais des scrupules à occuper cette place aujourd'hui pour remplacer Dominique Joly, parce que devant nos amis catholiques, je ne voulais pas apporter une voix protestante, et devant nos amis juifs, une voix chrétienne. Mais c'est vrai que le livre de Job qu'on m'a offert pour mon baptême, il y a quelques années de ça, et je suis toujours reconnaissant au groupe de partage qui m'avait accueilli, me parle beaucoup, parce que c'est le Dieu qui vient nous obliger à résister à l'idée de l'absence de Dieu, un Dieu qui est présent dans la souffrance des hommes, un Dieu qui est individuel. Hein, quand on lit la Bible, on pourrait passer, surtout sur le Premier Testament, un peu vite sur le fait que c'est le peuple, mais en fait, Dieu est un Dieu qui s'occupe des individus, qui nous considère comme des gens uniques. Et puis aussi, la résistance, plutôt que la résignation, et là c'est quelque chose de protestant, c'est que nous ne sommes pas maîtres de notre salut. C'est ce que disent les amis de Job, si tu es pas bien, c'est que tu n'as pas fait assez bien. Eh ben, je crois qu'on peut faire du mieux qu'on peut, si on est sauvé, mais ça c'est un avis très protestant, c'est à Dieu et à Dieu seul qu'on le doit. Excusez-moi d'avoir pris la parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore quelques minutes. Oui.
Je me demandais juste si Étienne Lesouvre n'était pas l'illustration de notre siècle de Job.
C'est l'illustration de toute l'histoire, hein, de toute l'histoire de l'humanité. Hein. D'ailleurs, j'ai cité les livres à la fin, c'est, beaucoup de gens réfléchissent là-dessus. Hein. Donc, c'est que l'attention que nous portons à l'histoire est un chemin pour nous vivre en communion et en dialogue avec Dieu. Mais il me semble que là, ce qui ressort dans Job, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas les démonstrations sapientielles de la sagesse, voilà, qui est nécessaire, mais si on en reste là, on reste dans l'abstrait. Ce qui est fort dans Job, c'est qu'il y a la rencontre avec Dieu dans son expérience existentielle. Voilà. Et que pour nous aussi, l'attention à l'histoire et l'attention à ce que vivent les hommes sont des appels de Dieu. Parce que le Dieu auquel nous croyons, soit en Israël les chrétiens, c'est toute la Bible, c'est le Dieu dans l'histoire. c'est le Dieu qui chemine avec l'homme dans l'histoire et qu'il partage toute cette histoire des hommes et que l'histoire est toujours un appel de Dieu. Je dirais que ce n'est pas Dieu qui fait les événements, mais Dieu est toujours présent dans les événements et il nous appelle. Et c'est l'homme qui est appelé à grandir au cœur des événements. Et là, je dirais aussi que cela, il faut qu'on accepte en effet ce mystère de Dieu qui nous dépasse. Mais mystère, ça ne fait pas appel simplement à la connaissance intellectuelle. Mystère, ça veut dire une relation de vie et d'amour. Hein, et d'un amour qui nous dépasse et qu'il nous faut toujours connaître davantage. Oui, je pense que là. Et donc, mais ce mystère s'incarne continuellement dans l'histoire. Dans toute la Bible, c'est ça. Les événements historiques ont été des événements qui ont permis cette meilleure connaissance de Dieu s'ils sont interprétés à la lumière de son appel. Si vous prenez la Bible, grandit par, avec les prophètes. Les prophètes, justement, sont ceux qui voient dans cette histoire qu'ils sont en train de vivre un avenir que Dieu prépare. Les prophètes dans la Bible, ce n'est pas ceux qui ont vu le futur, ce n'est pas des devins. Hein. C'est ceux qui savent interpréter, qui interprètent les événements de l'histoire à la lumière de l'alliance avec Dieu, à la lumière de la promesse de Dieu, et qui, au cœur de cette histoire, sont appelés à se convertir et à s'engager. Voilà, il me semble que Job s'inscrit aussi dans cette histoire.
Encore une question ?
Ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est qu'on ait la possibilité de dialoguer avec Dieu. Et je dois dire que ça nous invite aussi à savoir dialoguer avec les autres, à les écouter et à vivre ensemble.
Merci. Eh bien, on va arrêter là. Si tu peux. Et puis, on va remercier le père Marcellini. On voit qu'il est jeune parce qu'il est capable de nous appeler à la révolte, à la résistance.